Le grand écart, Karine Deneau. Au printemps dernier, naviguant tant bien que mal entre des multiples échéances et projets, je vivais un niveau de stress intenable. Je m'efforçais de le cacher pour n'inquiéter personne, surtout moi-même, espérant que la tempête passerait bientôt. J'ai plutôt frappé un mur. Diagnostic, épuisement ou burn-out. Je ne pouvais plus fonctionner et devais arrêter toutes mes activités. Fatigue extrême, problèmes de concentration et de mémoire, insomnie, difficulté à organiser ma pensée, besoin constant de dormir, étourdissement lorsque j'étais debout un peu trop longtemps. Un burn-out, c'est une forme de dépression. C'est une maladie mentale. Selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, un Québécois sur cinq sera touché par la maladie mentale dans sa vie. Chaque année, 20% des travailleurs canadiens souffrent d'une maladie liée au stress. Les problèmes de santé mentale en milieu de travail coûtent aux entreprises canadiennes près de 14% de leurs profits annuels nets. D'ici 2020, la dépression se classera au deuxième rang des principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale, juste derrière les maladies cardiaques. Les arts et la danse, soumis à des pressions de toutes sortes, n'échappent malheureusement pas à ces statistiques. Et pourtant, des tabous perdurent encore. Je travaillais trop dans trop de domaines différents en prenant chaque fois mon rôle très à cœur. Je ne prenais pas suffisamment de temps pour me ressourcer ou même me reposer. Je faisais trop souvent passer les besoins des autres avant les miens. Je me sentais responsable de bien des choses qui, en fond, ne m'encombraient pas. Je brûlais littéralement la chandelle par les deux bouts, croyant que pour mieux faire mon travail, devoir être partout et au courant de tout. Mais d'où me venait cette façon de voir les choses? J'ai dû être au repos pendant 5 mois, prendre des médicaments et revoir sérieusement ma façon de vivre et de gérer mon stress. Plus je me reposais, plus j'étais fatiguée et plus j'avais de la difficulté à m'occuper de moi-même. Lire un livre était impossible, suivre une conversation était souvent difficile, me promener m'épuisait encore plus, me faire à manger me demandait un énorme effort et faire l'épicerie était au-delà de mes forces. Mon trouble était tel que j'avais peur de perdre la tête, de ne jamais retrouver mes capacités d'analyse et de réflexion. Heureusement que mon amoureux, ma famille et mes amis proches étaient là pour me soutenir. Consulter une psychologue et suivre une thérapie m'ont aussi fait beaucoup de bien. C'est dans cet état de grande détresse que je suis allée à Toronto Island pour 8 Days 3, 3 mois et demi après l'annonce du diagnostic. Malgré mes inquiétudes et les recommandations de mon médecin, j'ai fait ma valise et pris le train. Je suis maintenant convaincue que ces 8 jours de l'été 2014 ont contribué à mon rétablissement. L'accueil du groupe, la chaleur, le respect, la compréhension et le soutien qu'il y a entre nous m'ont permis de mieux accepter ce qui m'arrivait et de me dire « ça va aller, tu vas être correct ». Chaque été depuis 3 ans, ceux qui font partie du projet 8 Days attendent avec impatience ce moment de ressourcement et de convivialité, avec une hâte vive de se retrouver pour faire le plein d'énergie, d'idées et de projets. L'ouverture, l'acceptation, de même que l'absence de pression et de jugement qui caractérise ce groupe stimule la discussion, les remises en question, les découvertes et la création, et font de 8 Days une expérience en profond contraste avec notre monde contemporain, trop souvent surchargé, stressé, intransigeant et compétitif. Durant 8 Days, les différences esthétiques et l'écart générationnel ne sont jamais un obstacle aux discussions honnêtes et stimulantes. Ici, il est possible de ralentir, de prendre le temps d'absorber ce qu'on découvre, de mieux connaître les gens qui nous entourent et de profiter de ce qui est là, tout simplement. Mon état de grande fatigue m'obligeait souvent à me reposer et ma présence un peu absente était respectée de tous. Chaque jour, j'allais à la plage pour regarder la mer. C'est un grand lac, en fait, mais l'illusion était parfaite. Son rythme et son immensité m'apaisaient. Pendant ce moment privilégié, je regardais l'eau, le ciel et l'océan sans penser à rien d'autre, en étant tout simplement là, présente. Certaines activités proposées par les membres du groupe m'ont apporté une plénitude similaire, comme marcher en silence, regarder la forme des nuages, méditer, prendre une heure pour passer de la position allongée à la position debout, sauter les bras en l'air dans une foule, agrandir un cercle à l'infini. De petits gestes qui me ramenaient à moi-même, tout en me faisant prendre conscience de la présence et du soutien du groupe, qui me rappelait l'importance d'être dans mon corps et dans le moment présent, ce que la pression et le stress des derniers mois m'avaient fait oublier. Martin avait apporté un superbe bouquin sur la permaculture qu'on s'est tous empressés de consulter. Bien que le terme existe depuis 1978, il demeure peu connu. Il vient de « permanent agriculture », une expression apparue en 1910. La permaculture vise une création agricole économe, durable et respectueuse de l'environnement et des êtres. Elle incite à utiliser les ressources déjà disponibles, à partager, à prendre le temps qu'il faut, à cultiver et à entretenir plutôt que détruire. L'inverse de ce que fait le pouvoir dominant, qui s'approprie ce qu'il veut et détruit le reste au passage, qui pense aux retombées financières immédiates et non aux problèmes écologiques, médicaux ou autres qui feront inévitablement surface un jour. Les principes qui sous-tendent la permaculture ont d'abord été pensés pour l'agriculture, mais ils s'appliquent tout autant à la vie en société. En voici quelques exemples tirés de permacultureprincipe.com/fr. Principe 1. Observer et interagir. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Principe 8. Intégrer plutôt que séparer. Plus on est nombreux, moins le travail est dur. Principe 9. Utiliser les solutions à de petites échelles et avec patience. Plus on est grand, plus on tombe de haut. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Principe 10. Utiliser et valoriser la diversité. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le milieu de la danse pourrait-il s'inspirer de ces principes pour être en meilleure santé, moins compétitif, plus inclusif, plus solide aussi, face au gouvernement qui peine à reconnaître son importance? Il existe des exemples d'entraide et de partage, qu'on pense à Circuit Est ou Wants and Needs à Montréal, à divers chorégraphes indépendants qui partagent le studio et de l'équipement, à 8 Days aussi. Et si la liste s'allongeait encore et encore? Au moment du diagnostic, je ne voulais pas que les gens soient au courant. Je me sentais faible, inadéquate, totalement démunie. Ma perception de moi-même et ma confiance étaient au plus bas. Accepter que je ne pouvais pas respecter mes engagements et que je devais tout mettre en suspens a été très difficile. Accepter que je sois une des personnes sur 5 touchées par la maladie mentale aussi. J'ai peur d'être jugée et stigmatisée. J'avais peur d'être rejetée. Aujourd'hui, je me rends compte de l'importance d'en parler et d'abolir les tabous qui persistent. Plus j'en parle, plus je constate que beaucoup de gens autour de moi ont vécu une période difficile similaire. Il faut changer les statistiques, repenser la manière de vivre au quotidien. Le silence et les tabous ajoutent à la pression, augmentent le stress et empêchent de reconnaître qu'il s'agit d'un programme social réel. Il me paraît essentiel que notre communauté artistique ne reproduise pas les façons de faire individualistes qui gèrent d'autres sphères de la société, qu'on revoie nos méthodes de travail, nos modes de pensée, notre manière d'être critique les uns envers les autres. Qu'on se donne du temps pour voir et recevoir ce qu'il y a autour de nous. Qu'on accepte l'erreur, l'hésitation, le changement, la différence, parce qu'ils font partie de la vie et sont porteurs de surprises et de découvertes qu'on ne ferait pas autrement. Peu de gens peuvent admirer la mer à longueur de journée. Trop de gens croient devoir constamment se dépasser. Le chorégraphe Jonathan Burrows dit dans un de ses duos avec le compositeur Matteo Fargion de Cowpeace, 2009, qu'il aimerait pouvoir faire des pièces comme celle de Pina Bausch, la grande dame de la danse allemande, mais que, malheureusement, il n'est pas Pina Bausch. Cette phrase m'est revenue récemment, bien que j'ai vu la pièce il y a des années. Burrows fait évidemment de l'ironie, sachant très bien que son travail et celui de Bausch nous interpellent différemment. Il n'est écrit nulle part qu'on doit posséder la même chose que son ami, voyager autant que son collègue, être aussi fortuné que son voisin, connaître tout sur tous les sujets, réussir dans tous les domaines et toutes les sphères de sa vie, être constamment disponible et accessible, etc. Il n'y a pas de surhomme ni de surfemme, il n'y a que soi-même, tout simplement.